Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'Al-Ghazali, l'Al-Ghazali des Latins, 1058-1111. Pour certains, il passe pour être le plus grand théologien musulman. Pour d'autres, plutôt un philosophe, en tout cas un érudit, un penseur. A été surnommé la preuve de l'islam. Pour parler d'Al-Ghazali, je n'ai pas trouvé mieux qu'Adrien Leytès. En préparant cette émission, je lui ai dit, vous passez pour le meilleur spécialiste de la pensée ghazalienne. Il m'a dit, ah non, surtout pas, mais ça c'est la modestie des savants. Adrien Leytès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris-Sorbonne. Vous avez passé une bonne partie de votre vie, et qui reste encore devant vous, à cerner le personnage. D'abord sa trajectoire de vie et surtout son œuvre, et dans son œuvre tout particulièrement la revivification des sciences de la religion, comme on traduit le titre de son œuvre majeure. Al-Ghazali, l'Al-Ghazal, qui est-il, Adrien Leytès ?
Mystère total. Qui est-il comme personne qui a vécu à une certaine période dans certains lieux? En fait, jusqu'à assez récemment, on le pensait complètement par rapport à un livre qu'il a écrit vers la fin de sa vie, qu'on appelle parfois une autobiographie, le délivreur de l'erreur, le Montretman Adalal.
Une des traductions possibles, parce que certains le traduisent par erreur et délivrance, ou celui qui délivre, ou qui nous fait venir après l'égarement.
Oui, ce qui est une traduction libre. Bon, là, j'essaie, moi, je suis assez littéraliste, donc j'essaie de traduire le plus proche possible. Oui, où il présente sa vie comme centrée, si on peut dire, autour d'une crise qu'il aurait eue après avoir été une sorte de professeur mondain à la Nidamiya, à la grande université de Bagdad, la Nidamiya. Une crise où il aurait d'abord...
Je ne veux pas vous interrompre, mais la Nidamiya, c'est cette école, cette madrasa université, fondée par Nidam al-Mulk, d'où son nom, le grand vizir Seljoukide, vizir d'Alparslan et de Malik Shah Ier. Oui. Et on aurait dit de nos jours qu'Al-Ghazali était titulaire de la chaire de théologie ou... quelque chose comme ça, à la Nidamiya.
Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai réduit ça à mon professeur mondain. Voilà, oui, il enseigne, hein, c'est un professeur, mais il enseigne, ça il le dira après, ou peut-être, il enseigne dans un but mondain, et pas dans le but, religieux, qu'on appelle le but de Dieu, ou le but de l'au-delà, auquel il va conditionner la valeur de la science, ou de la connaissance. Et donc, voilà, il aurait eu cette crise, il aurait d'abord douté de tout, et puis ensuite, il aurait fait une sorte de voyage à travers les différentes disciplines, différentes sciences de son époque, à la recherche de la vérité. Alors, ces différentes écoles, la philosophie, le kalam, la théologie musulmane, la doctrine des Ismaéliens, et il aurait fini ce voyage chez les soufis, dans le soufisme, où il aurait finalement trouvé la vérité, et il serait resté dans ce lieu jusqu'à la fin de sa vie. Et vraiment, la façon dont on voyait cette vie a été complètement dépendante de cette autobiographie. Et là, la recherche vraiment récente, il y a un livre paru en 2010 de Franz Greffel, qui a été suivi ensuite en 2014 par Kenneth Garden. Et là, ces deux auteurs, d'abord Greffel, suivi par Garden, je pense, ont vraiment... je suis très content de dire ça parce que dans nos disciplines, on a du mal à employer le verbe « démontrer ». Mais là, je pense qu'on peut dire qu'ils ont démontré que toute cette autobiographie était une énorme mise en scène, que Ghazali avait complètement reconstruit sa vie pour donner une image. C'est quelqu'un, ça je le dirai peut-être après, c'est quelqu'un, à mon avis, ce qui caractérise Ghazali d'abord, peut-être, c'est l'ambition. C'est quelqu'un qui veut laisser quelque chose, marquer l'histoire, marquer la pensée musulmane et aussi sa vie. Hein. Il a voulu laisser une certaine image de sa vie. Et là, encore une fois, ces deux auteurs dont je viens de mentionner, je pense, ont démontré que tout ça était une vaste mise en scène, une construction, hein, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité, en particulier sur deux points. Deux points qui, donc, après cette découverte de la vérité, Razali dit qu'il a coupé tout lien avec le pouvoir politique. Hein, les deux auteurs ont démontré que c'est faux, hein, qu'il a continué jusqu'à la fin de sa vie à garder des liens. Pourquoi ? Parce qu'il voulait agir, il voulait influer et avoir une influence. Hein, ça suppose avoir des liens politiques, encore aujourd'hui. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être aussi important, c'est le soufisme. Et ces deux auteurs ont démontré qu'il a eu un professeur de soufisme dès sa jeunesse. Donc, il était complètement initié au soufisme dès le départ. Il n'a pas découvert après un long cheminement. Hein, mais le soufisme fait partie de sa formation à côté de du droit, de la théologie, d'autres disciplines.
Alors Adrien Leites, quand vous parlez de son ambition, est-ce qu'il voulait laisser une trace de son passage ici-bas? Et ceci l'a animé parce que sa condition était modeste. Le nom même de Razali fait débat. Est-ce qu'il était Razali d'une bourgade dans les faubourgs de Tous, sa ville natale, qui est actuellement la ville de Mashhad en Iran, vous le dites, Adrien Leites, ou parce que son père était cardeur de laine ou était vendeur de laine, donc il était Razali. Il travaillait dans la laine et pour lui, il voulait surpasser cette condition. Je voulais m'assurer auprès de vous de cette situation, de son nom. Et le second point, à propos du soufisme, son père fréquentait des milieux soufis. Il l'aurait confié, lui et son frère, à un soufi, et son frère était soufi, dit-on.
Oui, tout à fait. Alors, sur le nom, là, encore une fois, c'est une controverse savante là-dessus, qui, encore une fois, apparemment, arrivait à une conclusion. Le premier auteur dont je parlais tout à l'heure, Griffel, lui, a écrit un petit article là-dessus. Hein, et en fait, la question, c'est est-ce que c'est Razali avec un Z ou avec deux? C'est finalement ça la grande question. Et lui est arrivé à la conclusion apparemment voilà, solide que c'est avec un seul Z. Moi, j'employais deux Z en imitation de mon maître, mais apparemment, je dois changer de pratique. Je connaissais pas cette théorie, son désir de surmonter ses origines modestes. Ce que je vais peut-être dire après, vraiment, c'est cette œuvre qui nous a laissé, qu'il faut essayer de comprendre. Et encore une fois, autant on est arrivé à des conclusions, des résultats sur sa vie, autant son œuvre, ce que pensait tout le monde est d'accord pour dire son œuvre majeure, la revivification des sciences de la religion, Yahya al-Muddin, encore aujourd'hui, on n'est pas arrivé à vraiment la comprendre. Oui, et le soufisme, ça c'est clair qu'il a été formé à cette discipline, si on peut dire, dès le départ, dès sa jeunesse. Maintenant, la place du soufisme dans ton œuvre, ça c'est une grande question, hein, puisque certains, vous avez parlé de philosophie tout à l'heure, mais certains le catégorisent comme soufi, ce qui je pense est une erreur si on essaye de comprendre un peu plus globalement ce projet de la revivification.
Continuant un peu à suivre sa formation, elle est classique au départ, il faut qu'il apprenne le Coran, et puis petit à petit, il sort de la ville de Tous, il suit des maîtres, et notamment Al-Juwayni,
oui.
Et donc il va plutôt se forger à une méthode, et notamment en philosophie.
Sa formation centrale, comme celle de la plupart des savants musulmans, c'est la formation juridique, hein, c'est le fiqh. Et vous savez que Juwayni aussi est un grand faqih de l'école Shafi'ite à laquelle appartient Razali.
La troisième école juridique dans le monde sunnite, oui. Et du nom du maître éponyme Shafi'i, oui. Mort en 820.
Oui. Et donc, alors là, c'est un autre aspect de Razali qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, l'aspect juriste, Razali juriste, c'est vrai parce qu'il a écrit au moins trois livres de droit, et dont le dernier, Al-Mustasfa, est considéré comme un moment important.
Et comment vous traduisez le Mustasfa? C'est une sorte de quintessence, sorte d'élection, on choisit ce qui est le plus utile et le plus important.
Oui. Oui, là, quand vous parlez d'utilité, là, c'est un aspect très important de Razali. Je pense que c'est un penseur de, certains diraient utilitariste, je ne sais pas si ça s'applique, mais un penseur de l'utilité. Le droit, évidemment, est une discipline utile. Donc là, il va être l'élève d'Al-Juwayni, mais ensuite suivre un chemin juridique, si on peut dire, à lui. Vraiment laisser aussi une œuvre majeure, quelque chose donc qui est important, mais peut-être moins que ça, la revivification, mais aussi, encore une fois, aujourd'hui, quand on parle de droit, pas seulement chafiite, mais droit musulman, l'œuvre de Razali est encore fondamentale. Hein, même une petite parenthèse sur la question, là, on saute dans l'actualité, si je peux me permettre.
Non, je vous en prie, on fait des va-et-vient le 10e, 11e siècle et l'actualité brûlante.
Oui, sur une question qui préoccupe beaucoup les musulmans aujourd'hui, la question de la détermination du début du ramadan, où il y a la querelle entre ce qu'on pourrait appeler les traditionalistes qui veulent toujours voir le croissant de lune et les autres qui disent que le calcul astronomique aujourd'hui est un outil sur lequel on peut s'appuyer. Eh bien, ça c'est Mohamed Bajrafil qui me l'a appris, sur cette question est déjà traitée par Razali, et Razali dit une phrase très simple, la vision et la science, ar-ru'ya 'ilm. Ce qui semble terminer, résoudre la discussion. Il y a plus Razali là a résolu une question qu'on se pose encore aujourd'hui apparemment, puisque pour lui la vision du croissant de lune, la vision c'est la science, la connaissance, et cette connaissance qui est bien sûr offerte aujourd'hui par le calcul astronomique. Donc vous voyez même.
Vous avez évoqué Mohamed Bajrafil, disons-le à nos auditeurs, c'est un imam contemporain, et donc ce qui est étonnant, c'est comment cette affaire n'est pas tranchée alors qu'elle a été débattue et réglée dès 1111, date de la mort de Al-Razali.
Oui. Voilà. Là, je parlais d'une question vraiment de droit, le follow-up, des branches du droit, des questions, disons, concrètes, pratiques. Voilà. Même là-dessus, Razali, vous voyez, a des contributions importantes. Mais alors, là, c'est sans parler de l'autre côté du droit, les usuls, les fondements du droit, où là aussi, Razali a laissé une œuvre importante.
Alors, il est à Bagdad. D'aucuns disent que sa formation est finie vers l'âge de 28 ans. Bagdad est sous le califat abbasside, mais le véritable pouvoir est détenu par les sultans seldjoukides. Et nous avons évoqué tout à l'heure le grand vizir Nizamul Mulk. Et là, il commence, j'allais dire, ses mondanités et le fait d'enseigner, et qu'il y avait une forte affluence à ses cours. D'aucuns parlent de 300, d'autres jusqu'à 400 disciples ou étudiants à tout le moins. On dit qu'on a vu dénombrer entre 300 et 400 turbans, des gens turbanés qui assistaient à ces cours. Comment se fait-il, pour aller vite, que par la suite, il va laisser les vanités du siècle, il va se lasser de ce décorum, de ses honneurs?
Oui, alors là, encore une fois, je pense que, mais moi aussi, bien sûr, nous dépendons toujours de cette autobiographie, le délivreur, que je traduis littéralement, le délivreur de l'erreur. Et encore une fois, apparemment, ça, c'est vraiment une construction. C'est la façon dont il a voulu se mettre en scène, se représenter, se construire, et c'est pas la réalité des choses. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a son œuvre juridique importante, évidemment, son œuvre philosophique ici, dont on va peut-être parler après, mais en tout cas, dans le débat sur l'islam actuel, vraiment, il y a cette espèce de pavé qui nous a laissé cette revivification des sciences religieuses, c'est vraiment ça, indépendamment de sa vie. Alors, est-ce qu'il a une crise, est-ce qu'il a vraiment, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'ambition, peut-être que il a découvert une meilleure ambition que l'ambition mondaine, qui est l'ambition d'être le rénovateur de la religion. Le revivificateur, le simple titre de ce livre est un titre extrêmement ambitieux et très insultant pour ses collègues, puisque quand il dit la revivification des sciences religieuses, ça veut dire que ces sciences sont mortes et que les savants qui en sont responsables les ont laissées mourir. Et d'ailleurs, ce titre a été reçu très mal par pas mal de savants qui se sont insurgés. Comment est-ce qu'il peut dire que nous, les savants... Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que, avec tout le doute qui plane sur sa vie, que cette œuvre majeure, c'est une autre forme d'ambition, mais elle est extrêmement ambitieuse. Et il n'est pas devenu, c'est pas quelqu'un qui a cherché, qui a une vie obscure, à se retirer du monde, à disparaître de la surface de la terre. Au contraire, c'est quelqu'un qui a voulu être célèbre, mais dans le bon sens, je dirais, quelqu'un qui a voulu influer avoir laissé une empreinte sur les musulmans, et ce qu'il a en grande partie réussi d'ailleurs.
Quand vous parlez de cette œuvre majeure, la revivification des sciences de la religion, vous avez à juste raison souligné que c'était très bien reçu par certains, et d'autres l'ont très mal pris. Comment se fait-il qu'il y ait cette arrogance de vouloir revivifier ces sciences de la religion? Il y a un jeu de mots en langue arabe, « Man lam yiqra al-ihya laysa min al-ahya », ce que je traduis, celui qui n'a pas lu la revivification ne fait pas partie des vivants. Ça, c'est pour ceux qui plaidaient pour cette œuvre majeure, encore une fois. En revanche, d'autres disaient que c'est une sorte de suffisance de penser pouvoir revivifier ces sciences, alors qu'en réalité, elles sont là. Votre avis à vous, comme chercheur et sachant?
Non, moi je suis très pro-razalien, comme vous l'imaginez. Hein. Non, je pense qu'il a vraiment fait quelque chose de... Il a vraiment laissé une œuvre... Même, alors sans juger du contenu, si vous voulez, moi j'ai tendance... Alors justement, j'aime pas le mettre dans une case soufi, philosophe ou n'importe quoi. J'ai tendance à le décrire comme un penseur musulman global. Et aussi vraiment aussi qui est accessible aujourd'hui et important aujourd'hui, mais je dirais voilà, penseur musulman global, c'est quelqu'un, vous savez, c'est extrêmement rare en islam, qui est quand même comme d'autres religions évidemment assez fragmenté, hein, de quelqu'un qui a écrit un livre qui a été lu en dehors, je parle même pas de son école juridique ou théologique, mais en dehors de sa confession sunnite. Donc la revivification a connu des recensions chiites et même ibadites, la troisième confession musulmane. Et ça, c'est vraiment, moi, ça me semble assez exceptionnel. Alors bien sûr, ces recensions, hein, les recensions chiites suppriment, hein, les côtés justement les marques confessionnelles sunnites, hein, et les recensions ibadites sans doute aussi. Hein, mais quand même, le fond de son œuvre touche. Hein, ces autres pans de l'islam, ce qui me semble très significatif, hein, sans parler de son impact sur les contemporains, où vous avez aussi bien des gens qu'on dit ou qui se disent ou qu'on dit fondamentalistes, comme le cheikh Qardaoui par exemple, hein, au Qatar, enfin frère musulman égyptien qui est aujourd'hui au Qatar et qui a une certaine importance dans l'islam contemporain, se réclame de Razel.
Parfois controversé aussi.
Controversé bien sûr, non mais juste pour donner une idée, quelqu'un comme Qardaoui se réclame de Razali et aussi de l'autre côté, hein, des gens qui se disent ou qu'on dit soufis, hein, se réclament aussi de lui. Un peu, c'est les deux extrêmes, hein, du spectre musulman aujourd'hui, et ça me paraît très remarquable et assez rare. Quelqu'un qui est très important aussi dans la pensée musulmane sunnite comme Ibn Taymiyyah n'arrive pas, hein, à ce résultat. Il est cantonné dans une case, si vous voulez.
Quand vous avez parlé de son influence sur les contemporains, je dois avouer que j'ai compris ses propres contemporains.
Oui.
Puisque, pour sortir de la sphère islamique, on dit, mais ça vous pourrez le confirmer, Adrien Létès, qu'il avait une influence majeure sur Judas Lévi, le rabbin, et c'est son Al-Khuzari, qui est aussi une œuvre maîtresse de Judas Lévi.
Oui, alors ça c'est quelque chose que je connais moins, ou pas, même pas d'ailleurs, hein, donc je peux pas en parler sérieusement, mais quand même, son influence externe, extrême, je pense que déjà, réussir à avoir une influence sur l'ensemble, si on peut dire, enfin une grande variété de musulmans, dans l'espace confessionnel, enfin doctrinal et confessionnel de l'islam, et aussi dans le temps jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà remarquable. Hein, il ne faut pas attendre de lui qu'il ait une influence en dehors de l'islam. Hein, c'est beaucoup de lui demander déjà avoir une influence sur tout, hein, les différentes variantes de l'islam, c'est déjà énorme, et jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais, alors ça c'est quelque chose que je connais beaucoup moins, mais je dirais que son influence en dehors de l'islam, qui existe bien sûr, c'est plutôt son aspect philosophique, c'est plutôt sa philosophie, qui je pense plutôt au monde chrétien, alors à l'Occident chrétien en particulier, latin, voilà.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Adrien Leytès, professeur à Paris-Sorbonne, pour parler de ce penseur musulman encore d'actualité. Nous nous posons même la question, comment se fait-il que quelqu'un qui est mort au début du XIIe siècle puisse être encore d'actualité au niveau de sa pensée? Et vous nous avez dit, Adrien Leytès, que son influence couvre toute une gamme ou tout un spectre qui va depuis les frères musulmans avec leur chef de file encore vivant, Youssef al-Qaradawi, jusqu'aux soufi Aoui, avec S, ceux de la tendance soufi. C'est dire qu'on essaye de s'en réclamer. Parlons maintenant de Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des latins, encore une fois, cette fois-ci philosophe. Dans son ouvrage « Les finalités ou les visées des philosophes », est-ce que c'est pour les pourfendre après et pour dirimer leur thèse qu'il a composé cet ouvrage, ou c'est pour tout simplement les comprendre?
L'ouvrage que je connais mieux et qu'on mentionne en général quand on parle de Razali et la philosophie, qui est l'effondrement des philosophes, Tahafut al-Falasifa, là je pense aussi qu'il y a, là je dirais deux choses, et encore je reviendrai à la recherche actuelle, en particulier Griffel qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui dit des choses qu'on pouvait percevoir avant, mais qu'il les dit plus, d'une façon plus claire, plus systématique. Il semble clair que ce qui gêne Razali dans la philosophie, ce sont les doctrines incompatibles avec l'islam. Hein, c'est tout. Hein, par exemple, l'éternité du monde, l'absence de prophétie, des choses comme ça, le fait que Dieu ne connaisse que les universels et pas les particuliers. Bon, hein, je vais pas entrer dans trop de techniques. C'est ça qui le gêne, c'est ça qui combat. Mais la philosophie comme façon de faire, mode de penser, hein, non seulement il accepte, il la suit. Et d'ailleurs, hein, dans ce livre, Tahafut, l'effondrement des philosophes, hein, finalement, c'est Griffel qui l'a montré. Il attaque les philosophes et il leur dit, hein, selon vos principes, vous n'avez pas appliqué vos principes correctement. Hein, moi, je vais produire un raisonnement philosophique meilleur que le vôtre. Dans cet ouvrage, qui est censé être une attaque des philosophes, c'est une attaque sur certaines doctrines incompatibles avec l'islam, mais sur la façon de faire philosophique, pas du tout. Hein, c'est plutôt un dialogue un petit peu polémique, mais un véritable dialogue avec les philosophes. Hein, ce que je voudrais ajouter sur cette question, et qui me semble encore, voilà, peut-être aussi important, en particulier aujourd'hui, et remarquable, c'est que dans son œuvre religieuse, pas philosophique, si on peut dire, en particulier dans la revivification, il a complètement intégré cette façon de faire philosophique, sans le dire. Hein. Je parlais de l'ambition de Razali, il est aussi un petit peu, comme beaucoup de gens ambitieux, parfois un petit peu malhonnête, mais là je dis ça pas du tout, c'est pas du tout malhonnête dans le bon... Oui.
Insidieux.
Insidieux, très bien, voilà, vous m'avez donné le bon mot, un meilleur mot, au sens où il ne va jamais citer, jamais mentionner d'autorité philosophique. Platon, Aristote, hein, vous le trouverez jamais, hein, au contraire, le prophète, les compagnons sont omniprésents, mais en même temps, hein, vous allez voir, hein, il suffit de lire, voilà, commencer à lire la revivification pour voir, c'est vraiment une façon de penser, une façon de procéder, hein, philosophique, et je dirais tout simplement, hein, d'une façon, voilà, puisqu'on a besoin de choses simples aujourd'hui pour résoudre nos problèmes, c'est quelqu'un très souvent, voilà, sa réflexion, son argumentation ne part pas des sources, ne part pas du Coran, du Hadith, hein, elle est autonome, et le Coran et le Hadith viennent un peu comme, après, comme illustration de cette argumentation, sans entrer dans les détails, voilà, c'est quelque chose de, quand on lit la revivification, c'est clair qu'on est avec un philosophe, même s'il ne mentionne jamais d'autorité philosophique, hein, et qui, voilà, il va mentionner, bien sûr, le prophète et les compagnons, mais à côté, sa réflexion, sa façon de faire, sa façon de procéder est très philosophique. Donc, je dirais, encore une fois, pour résumer tout ça, la philosophie, voilà, la question de la philosophie chez Razali, c'est quelqu'un qui a réussi aussi, c'est un exploit, à intégrer complètement la philosophie dans le sens de la façon de faire, la façon de penser, la façon de procéder philosophique dans la pensée religieuse. Hein, et après lui, d'ailleurs on le voit, hein, la philosophie est là. Elle est dans la pensée religieuse, même si elle ne dit pas son nom. Hein, et ça, c'est quelque chose que lui a réussi à accomplir.
Et pourtant, je le dis sous votre contrôle, il a bien étudié Platon, Aristote et surtout Plotin.
Alors, Plotin, oui. Alors, ce que disent les spécialistes de ça, c'est que ses sources, enfin sa formation philosophique est surtout néo-platonicienne. Alors, en même temps, c'est clair que les sources philosophiques qu'il avait étaient en arabe, c'est des traductions. Hein, donc, il a un peu hérité. Voilà, c'est un peu l'héritier de toute cette tradition philosophique arabe. Mais il a, voilà, c'est pas quelqu'un qui allait lire Platon et Aristote dans le texte, par exemple.
Et quand il s'adresse aux philosophes, il s'adresse tout particulièrement, enfin, à toute la lignée, certes, depuis Al-Kindi, l'Al-Kindus des Latins, mais tout particulièrement à Avicenne, oui, et son prédécesseur Al-Farabi.
Oui.
Donc, Al-Farabus des Latins aussi.
Oui.
Et il leur reproche certaines prises de position qu'il qualifie d'hérétiques. Et vous qui avez évoqué l'écroulement, la réfutation, le terme arabe tahafut est très polysémique.
Oui.
Je veux dire à la fois réfutation, écroulement, incohérence, effondrement, tout ça à la fois. Et donc l'effondrement des philosophes, c'est quoi? C'est 20 questions dont 3 d'ordre philosophique pur et le reste métaphysico-théologique. Surtout sur l'éternité du monde, Dieu connaissant les particuliers et l'universel, oui, des choses, l'homme, la position de l'homme dans la création.
Oui, alors encore une fois, j'aimerais bien insister là-dessus, bien sûr, on retient ce mot. Et d'ailleurs, Razali a parfois mauvaise presse, en particulier dans le monde arabe, ou dans les tendances un peu libérales, on le voit comme le destructeur de la philosophie, à cause finalement de ce titre. Mais moi, je dis cet effondrement des philosophes, hein, il est accompli pour les intégrer finalement. Hein. Il faut les voilà faire tomber leur doctrine incompatible avec l'islam, mais pour intégrer leur façon de faire, leur façon de penser dans la pensée religieuse. C'est ça qui intéresse un Razali. Hein, finalement, à mon avis, encore une fois, c'est cette œuvre, ce projet de la revivification. Et pour cette revivification, il a besoin de la philosophie, mais sans le dire. Hein, voilà.
Il a été mal compris parce que l'idée générale, et je me fais un peu le porte-parole de ceux qui disent qu'après son ouvrage, donc la réfutation, l'effondrement, l'incohérence, la destruction des philosophes, quand bien même plus tard il y aurait un Averroès qui, avec son ouvrage La réfutation de la réfutation, pour essayer de contrebalancer et montrer aussi les incohérences d'Al-Razali, selon Averroès, ceci n'a pas suffi pour laisser place en contexte islamique, et même au pluriel, à une véritable étude de la philosophie, des études rationnelles, des études phénoménologiques même de la connaissance. Est-ce vrai? Est-ce faux?
Comme je l'ai suggéré tout à l'heure, et peut-être malheureusement, nos études sont assez compartimentées. Et vous avez parlé d'études. Dans les études razaliennes, il y a vraiment des gens qui travaillent sur la philosophie, d'un coup, et des gens qui travaillent sur la pensée religieuse. Et les deux mondes communiquent peu finalement. Donc moi, je fais surtout partie du second monde, et la pensée religieuse. Bien sûr, je connais un petit peu ce qui se fait dans l'autre. Et là, j'ai l'impression que finalement, on redécouvre toute une tradition philosophique postérieure à Razali, qu'on a un peu occultée. Aujourd'hui, enfin, les chercheurs actuels ont tendance à dire que la philosophie n'est jamais morte en islam, qu'elle a continué. Hein, peut-être pas dans des grands traités, mais dans les commentaires et les commentaires des commentaires. Il y avait une pensée philosophique vivace qui a continué. Oui, et Razali n'a jamais détruit. Simplement, hein, peut-être, oui, je pensais à quelqu'un comme Razi, hein, qui est postérieur à Razali, de peu, mais quand même postérieur.
Lequel?
Fakhreddin.
Ah, très bien.
Oui.
Parce que Razès latinisé est plutôt antérieur,
oui,
aussi
oui,
qu'un philosophe.
Oui. Oui, vous avez quelqu'un alors qui cite beaucoup Razali, lui qui serait un petit peu le continuateur au sens de l'intégration de la philosophie dans la pensée religieuse, en particulier dans son grand commentaire du Coran. Mais la pensée philosophique, disons, professionnelle, Razi aussi d'ailleurs est aussi un philosophe professionnel. Il est postérieur. Donc, mais encore une fois, alors, c'est un domaine que je connais moins. Donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais ce que je vois, ce que je lis, hein, c'est que cette idée est complètement fausse. La philosophie n'a jamais été mise à mort. Et voilà, il y a une sorte de diabolisation de Razali qui, je sais pas, ouais,
qui est indue, et c'est une diabolisation injuste.
Oui, mais c'est une diabolisation qui est nocive dans la mesure où elle occulte son grand projet, à mon avis, qui est encore une fois la réunification, hein, où la philosophie est là, sans dire son nom, comme je disais tout à l'heure, hein, et c'est ça qui ferait finalement qui me semble le plus important.
Et si nous parlions, par exemple, d'autres ouvrages, ce qu'on traduit peut-être mal par l'économie dans la croyance, ou celui qui s'économise dans ses convictions, hein. En arabe, c'est l'irtisad ou l'irtikad, par exemple, ou qui est un appel à la modération, un appel à une position de juste milieu, comme disent certains. J'en sais rien, ça, je vous interroge. Et puis, le critère de l'action. Mm-hmm. Le premier,
oui.
Celui...
Oui, l'artisan fil artikad.
Oui, hein. Comment vous le traduiriez-vous?
Eh ben, je ne me suis pas posé la question, Raleb. l'économie, oui, alors, l'artisan, bien sûr, l'économie, le juste milieu, Bon, j'ai pas réfléchi.
Faire preuve de modération, de retenue,
modération,
d'économie.
Je dirais pas économie, c'est très bien.
Questions de conviction, de dogmatisme et de croyance.
Oui. Je m'arrêterai pas trop sur le, mais ça soulève une question dont on n'a pas parlé tout à l'heure, la question de la théologie. Moi, ce que j'appelle la théologie argumentative, le kalam. Et là aussi, ça nous ramène à Juwayni, hein, le grand maître, un des grands maîtres de Razali, qui est toujours un grand mutakallim, un grand praticien de cette théologie argumentative. Et donc là aussi, Razali est l'héritier. Et donc là, on a parlé tout à l'heure, on a dit que Razali appartenait à l'école de droit Shafi'ite. Les écoles de théologie, c'est quelque chose de distinct en islam. Hein, lui, donc l'école de théologie à laquelle il appartient, ce sont les Ash'arites. Donc là, Razali suit, hein, il apporte sa pierre dans la construction. Voilà. Ce livre qui est d'ailleurs assez petit, me semble pas très original, il apporte quelque chose. Voilà. Il continue la tradition théologique ash'arite, hein, apprise de son maître Juwayni. Mais il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, peut-être au tout début du livre, et qui est finalement peut-être le point central de toute la pensée de Razali, la question de la science ou de la connaissance. Et là, il dit quelque chose qui est omniprésent dans son œuvre. Il dit la science n'a pas de valeur si elle est inutile. Hein, seule la science utile, hein, a de la valeur. Et ça, c'est intéressant parce que en général, en théologie, dans le kalam, hein, le kalam est quelque chose, c'est vraiment assez spéculatif. Les gens se posent des questions qui semblent justement pas avoir d'utilité. Lui, il le fait un petit peu aussi.
Le kalam, c'est ce que vous appelez la théologie argumentative.
Voilà, c'est un mot, oui.
Pour certains, c'est la théologie fondamentale. Mais vous avez raison de dire qu'il y a de l'argumentation derrière.
Quand on lit Juwayni, par exemple, qui essaie de démontrer l'unicité divine, par exemple, avec une argumentation qui semble vraiment complètement tirée par les cheveux, on dit justement quelle est l'utilité de tout ça. Donc Razali, quand il pratique le kalam, il tombe un petit peu dans ce côté spéculatif, théorique. Mais au début, il dit quand même, seule la science utile a de la valeur. Une science qui n'est pas utile, il faut l'acheter à la poubelle. Et donc ça montre, et ça vraiment, c'est quelque chose qu'on voit se manifester clairement dans la réification, où justement, il coupe. Encore une fois, Razali est un homme multiple. Hein. Je dis peut-être des choses différentes, même contradictoires. Dans ce livre donc de théologie, là, que vous traduisez par l'économie de la croyance, finalement, il pratique le kalam traditionnel, un peu spéculatif, mais dans la réification, il coupe vraiment avec ce qu'il a appris de ses maîtres, en particulier Juwayni. Et il s'attaque au mutakallim. Hein. Donc on parle bien sûr de ça. Hein, la bête noire on dit que les philosophes sont la bête noire de Razali, mais il a une seconde bête noire qui sont les mutakallim, qui sont les théologiens. Qu'est-ce qu'il leur reproche à ces théologiens? Non pas, alors autant les philosophes peuvent avoir des doctrines inacceptables, insupportables, hein, les théologiens non. Les théologiens sont de parfaits défenseurs de la religion. Hein, sauf que leur science est inutile, en grande partie inutile. Hein, pourquoi? Parce que la science et là on arrive peut-être à un point central, je parlais de l'utilité de la science. L'utilité de la science, c'est son lien intrinsèque avec l'action, al-amal, al-ilm al-amal, qui est un couple traditionnel en islam. Justement, ce qui reproche...
Science aux réflexions et actions, on aurait pu dire de nos jours.
Si on veut. Science et action. Ou pratique, pour avant. Oui. Il y a plusieurs, toujours les traductions, oui. Hein, donc, il reproche très, très violemment, très, très clairement et très violemment aux théologiens, justement, d'avoir coupé ce lien. hein, et de se poser des questions finalement inutiles, qui n'ont aucune pertinence pratique, hein, et finalement de vivre dans une sorte d'enclos, hein, où ils passent leur temps à affiner leur technique et surtout à se confronter les uns aux autres. Hein, ce qui pour, et l'inutilité par excellence. Alors que lui, veut, oui.
Non, Adrien Etes, je ne veux pas vous interrompre. Vous disiez au début de notre exposé que Al-Ghazali est un penseur utilitariste ou de ce qui est utile. Et je ne veux pas commettre à mon tour un quelconque anachronisme. J'ai pensé à Ludwig Wittgenstein quand il dit « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Enfin, une des traductions possibles. Donc, pour lui, ce qui est inutile, les spéculations, les ratiocinations, il vaut mieux peut-être les taire et aller directement à l'essentiel.
Oui, et l'essentiel, encore une fois, c'est l'action, mais en fait, c'est ce lien ou ce couple, hein, science-action ou connaissance et pratique, enfin, voilà, plusieurs traductions, al-amal. Hein, et ça, autant dans le livre dont vous parliez, le livre de théologie dont vous parliez, là, il suit la tradition théologique, hein, globalement, autant dans la revendication, hein, clairement, il essaye de... Voilà, là, c'est vraiment un propos... Finalement, le projet de la revendication, c'est quoi ? Pourquoi les sciences religieuses sont mortes ? Hein, parce que en quoi les savants les ont laissés mourir ? Hein, ils leur ont fait perdre leur utilité, hein, leur faire perdre ce lien intrinsèque avec l'action, la pratique, et c'est la revendication, c'est finalement recréer ce lien. Hein, c'est ça le projet. Recréer ce lien, là très différent bien sûr de la philosophie, très différent aussi de la théologie. Et donc, la science dont Razali parle dans la revendication est toujours une science utile, une science tournée, hein, vers la pratique, vers l'action, et qui va avoir une utilité, et qui va aider, et c'est ça finalement sur lequel, voilà, qu'on pourrait dire, hein, pourquoi ce projet est intéressant et encore pertinent aujourd'hui, l'idée de la revendication, c'est accompagner les musulmans. Et là, remarquez, je dis les musulmans, hein, je veux pas universaliser Razali, je pense pas, hein, que sa pensée, je pense qu'il parlait, hein, aux musulmans et aux seuls musulmans. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui on peut pas étendre cette pensée à d'autres, mais pour lui, il n'avait en tête que les musulmans. Donc, hein, son projet finalement, accompagner les musulmans sur ce qu'il appelle la voie vers Dieu, à tariq al-Allah. Ce qu'il appelle aussi, qui est finalement une définition de la religion, hein, din, hein, la religion pour lui c'est un chemin vers Dieu, hein, on avance sur ce chemin, hein, pour, hein, dans l'espoir de le rencontrer, l'iqa, de rencontrer Dieu après dans l'au-delà. Et ça c'est, si vous voulez, ça c'est l'image habituelle chez Razali. Il y a une autre image intéressante, c'est l'image de capital, ra'smal. Hein, il dit clairement, hein, dans le livre des normes du mariage, dans la réification, ad-din ra'smal, la religion est un capital. Donc il y a cette idée aussi donc d'accompagner les musulmans sur leur chemin vers Dieu et aussi les accompagner dans la fructification de leur capital religieux bien sûr. Et leur capital religieux, c'est quoi ? C'est le mérite qui tire des œuvres, des a'mal, mais à condition que ces armes, que ces œuvres s'alimentent à une science. On revient à la science, parce que si elles s'alimentent comme la science qui ne débouche pas sur la pratique, sur l'action, est inutile, l'œuvre, l'action qui ne s'alimente pas, qui n'est pas fondée, qui n'a pas pour source la science, est inutile dans un autre sens, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas de mérite, ça peut même pire, elle peut vous apporter un démérite qui va compromettre votre situation. Thank you.
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous sommes avec Adrien Leytès, professeur à Paris-Sorbonne. C'est le titre exact de Paris 4. Et vous passez, Adrien Leytès, pour le connaisseur de la pensée razélienne. Nous parlons aujourd'hui d'Al-Razali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111. Et vous connaissez très bien son œuvre majeure, La revivification des sciences de la religion. Je voulais aussi que vous nous disiez un mot sur son autre œuvre, Le critère de l'action, mais vous avez évoqué quelques points. Donc, le critère, oui. C'est pas la balance, c'est le critère, c'est-à-dire la jauge à l'aune de laquelle on peut apprécier l'opportunité, l'utilité de telle ou telle œuvre de connaissance, je ne dirais pas scientifique.
Oui, alors là, vous, bien sûr, vous remarquez dans ce titre le mot « action »,« amal », hein, le mot dont on parlait tout à l'heure. Et c'est, oui, alors ce livre, petit aussi, est intéressant. Il précède, ça, les spécialistes sont d'accord là-dessus, il précède hein, la revivification. Et là, encore, il y a une controverse savante hein, sur... alors justement, ça nous ramène à la question de la philosophie. L'intégration de la philosophie dans la pensée religieuse. Et jusqu'à assez récemment, on voyait ce livre, le critère de ou la balance, il faudrait traduire, hein, la balance de l'action, Mizan al-Amal, on le voyait comme influencé toujours par l'autobiographie de Razali, comme un précédent sacré et une œuvre ou un livre encore imprégné de philosophie, où Razali n'avait pas encore découvert la voie soufie qui va, oui. Et là aussi, la recherche a vraiment est arrivée à des résultats. Aujourd'hui, en particulier le second auteur que j'ai mentionné tout à l'heure, Garden, lui montre, alors il y a plein de choses qu'il ne montre pas, hein, mais il montre quand même assez clair que ce livre finalement, il parle de sketch, de débauche, d'esquisse, hein, c'est une esquisse de la revivification. Hein, il n'y a pas de thèse qui soit complètement différente, voire même opposée, même fondamentalement différente de celle de la réification. Hein, je pense que la meilleure façon de voir ce livre, c'est une esquisse de la réification, une version courte hein, de ce qui va devenir après un grand livre. Mais les thèmes sont finalement les mêmes. Cette idée de, même s'ils se concentrent sur on a mentionné deux titres, la réification des sciences religieuses. Et maintenant, le critère de l'action, mais finalement, c'est la même chose, je voudrais dire, hein, pour simplifier un petit peu, pour grossir un peu les choses. Science et action sont intrinsèquement liées. Et la revivification des sciences religieuses n'est pas un livre consacré à la science, aux sciences, hein, de même que le critère de l'action n'est pas un livre consacré à l'action, à la pratique, hein, puisque, alors il y a peut-être une insistance, peut-être plus de... Mais finalement, encore une fois... Et ça, Razali n'a pas inventé, mais il insiste beaucoup là-dessus. Il le prend vraiment au sérieux. Science et action sont intrinsèquement liées. Et la religion, c'est le lien entre les deux. Et ce qui reproche, encore une fois, aux savants, et en particulier aux théologiens, hein, les philosophes, c'est un monde à part, hein, ce qui reproche aux théologiens, c'est justement d'avoir coupé ce lien. Et toute son œuvre, c'est ça, finalement. Simple, oui.
Adrien Leytès, comment techniquement la composition de cet ouvrage en plusieurs volumes, c'est une somme considérable, en quatre thèmes fondamentaux, a-t-elle pu se faire cette composition, puisque c'était à une période où il était en pérégrination. Il devait sortir de Bagdad, prétextant qu'il allait accomplir le pèlerinage à la Kaaba, dans la Mecque, mais finalement il bifurque pour aller à Damas et pour aller du coup... à Hébron, au Caire et en Alexandrie où il aurait vécu un moment. C'est qu'il écrivait comment durant toutes ces pérégrinations qui lui ont pris plus de 10 ans, au moins 11 ans.
Oui.
Techniquement, ça s'est passé comment ?
Vous me reposez la colle de la vie de Razali, encore une fois, qui est obscure, mystérieuse, hein, puisqu'il aurait construit là. Bon. En tout cas, je reviens à ses recherches dont je parlais tout à l'heure. Il est clair qu'il n'a pas passé toute cette période en pérégrination. Il est revenu régulièrement à Bagdad et même à Tous, hein, et en particulier pour nourrir ses liens avec le pouvoir politique. Si on voit cette œuvre, si on voit la réification... On peut, sauf s'il était extrêmement efficace et rapide dans son travail, on peut penser quand même qu'il a passé la plupart de son temps à écrire.
Hein. Oui, c'est oui. ça, c'était ça ma question. Oui. Il serait revenu, il est venu à Nishapur pour enseigner encore une fois à la Nidamiya, donc l'autre école, l'autre madrasa de la ville de Nishapur. Vous avez dit, Adrien Létès, qu'il avait deux bêtes noires. Les philosophes, ça, on leur a réglé leur sort, les théologiens aussi, mais il y a aussi l'ésotérisme ismaélien. Est-ce pour les mêmes raisons? Pourquoi s'est-il aussi, s'en est-il pris aux ismaéliens?
Oui. Alors, j'ai essayé de globaliser tout à l'heure un petit peu Razali, mais il faut le remettre dans son contexte. Hein. C'est un penseur sunnite, donc qui se réclame du Coran et de la Sunna du prophète, et qui voit l'ismaélisme comme une innovation, comme une béda. Là, vous voyez, on est vraiment dans le...
Une innovation blâmable.
Une innovation blâmable, une innovation par rapport, oui, une interprétation déviante du Coran, et puis une déviation aussi par rapport à la tradition du prophète. Là, je dirais, pour répondre à votre question, Razali est un fondamentaliste. En termes actuels, bien sûr, c'est un fondamentaliste au sens où il pense que toute la religion, le dîn, qu'il décrit soit comme une voie vers Dieu, soit comme un capital, est fondée, qu'il repose sur les fondements que sont le Coran et la Sunna du prophète, la tradition du prophète, la hadith. Et donc il exprime cette position et il emploie le mot de bédara, d'innovation blâmable. Pour lui, les ismaéliens sont vraiment des déviants. Enfin bon, il a des mots très très durs. Mais ça me donne l'occasion de dire quelque chose qui est significatif sur la multiplicité, la complexité de Razali. On peut clairement dire qu'il est fondamentaliste, mais je dirais que c'est un fondamentaliste flexible. Et là, je vais vous donner un petit exemple quand même. Donc, ce livre, vous l'avez dit, il y a dans ce livre, La Revivification, il y a en fait, on pourrait dire, 40 chapitres. Et il commence chacun de ces chapitres par une section qu'il appelle en général Fadila, mérite supérieur.
Vertu, mérite.
Voilà. Qu'est-ce qu'il met dans cette section? Il met justement les sources. Il met d'abord et les sources, et là, il suit vraiment la hiérarchie. Il commence par le Coran, ensuite la Sunna, le Hadith du prophète, ensuite les paroles des compagnons, ensuite les paroles des fondateurs d'école, ensuite les paroles des soufis. Et pour dire au lecteur, n'aie pas peur, tu es avec un penseur musulman qui va parler au non-dit, voilà, qui va développer. Et qu'est-ce qui montre ça? Justement, on commence par les sources. Mais après, dans le chapitre qui suit, il se libère en partie des sources. C'est là qu'il va développer cette pensée ou cette argumentation de genre philosophique. Mais en même temps, c'est pas aussi simple que ça, parce que la tradition est quand même présente. Maintenant, ce que je veux dire, fondamentaliste flexible, pourquoi? Un exemple, dans un livre qui s'appelle Le livre de la cassure des deux appétits, qui tape Kasser Asherwatein, le premier appétit étant l'appétit du ventre. Il va d'ailleurs, l'appétit du ventre est pour lui beaucoup plus dangereux que l'appétit du sexe, donc l'appétit du ventre, Sherwat al-Batn, l'appétit du sexe, Sherwat al-Farsh. Donc il va beaucoup plus parler de l'appétit du ventre. Et le premier chapitre, la première section de ce livre, c'est, il appelle Fadilat al-Jou', le mérite de la faim. Et il veut dire
une sorte d'abstinence, voilà, de privation.
La faim qui
ventre.
Est distincte du jeûne. Il veut dire au lecteur, si tu veux avancer bien sur le chemin vers Dieu, faire fructifier ton capital, cultive la faim. Il faut jamais être manger à
satiété.
À satiété, oui. La satiété, le Shabbat, doit être évident. Voilà. Et ce chapitre, comme les autres chapitres qui s'appellent Fadila, c'est les sources. Sauf que là, le mérite de la fin est quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans le Coran. Plutôt le contraire. Le Coran a plutôt tendance à dire que manger des bonnes choses qui sont sur la terre, etc. Donc que fait Razali? Il n'a pas de Coran. Il n'a pas de verset 1. Il commence par le Hadith. Il a complètement zappé, on dirait aujourd'hui, le Coran, et ça ne le gêne pas. C'est pour ça que je dis, oui.
Le hadith, ce sont les propos du prophète.
Les propos du prophète, des propos d'ailleurs, ça c'est une autre question très importante, l'attitude de Razali envers le hadith. Mais là, vous voyez, ça c'est un fondamentaliste, c'est-à-dire qu'il met toujours les sources, les fondements d'abord, mais quand il n'en a pas, et le Coran, c'est le premier fondement, quand il n'a pas de Coran, il s'en passe. Et ça c'est très significatif, je pense.
Alors mon cher Adrien Létès, promettez-nous aux auditeurs et à moi-même que vous reviendriez, parce qu'il me restait encore deux sujets fondamentaux. C'est ce qu'on appelle la sotériologie d'Al-Ghazali, l'idée comment les gens vont être sauvés ou pas, et puis parler de l'amour et notamment de l'alchimie du bonheur. Et vous avez composé un ouvrage parlant de l'amour et notamment chez Al-Ghazali. Là, nous n'avons plus le temps d'en parler puisque nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir. C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard. La réalisation a été assumée par l'ami Franck Lilin.